Il y a Serge là, qui veut nous dire quelque chose à propos du Tupperware?
Oui, j'ai le Tupperware, le cappuccino. Le Tupperware, on va commencer par ça. Ça m'intéresse l'histoire de janvier-février, donc où j'ai pris le même article que les brasseuses.
Ouais. Je me souviens, j'avais une tante, Gabi, que j'adorais, qui a été représentante de Tupperware. Elle faisait des démonstrations chez elle.
Oui. En 1946, l'inventeur Earl Tupper met au point un récipient révolutionnaire.
Ah, c'est Monsieur Tupper!
Oui. Une boîte de conservation en polyéthylène parfaitement hermétique grâce à son couvercle inspiré des pots de peinture. Une pression, un clic et l'air est chassé. Push, push. Confiant, il fonde l'entreprise Tupperware et distribue ses produits dans les supermarchés et les quincailleries. C'est un échec.
Ah oui, ça a mal commencé.
Oui. Tout bascule au début des années 1950 avec l'entrée en scène d'une redoutable vendeuse, Bronnie Wise. Son idée? Organiser des réunions
à domicile. Elle était wise, cette Bronnie.
Oui. Organiser des réunions à domicile entre voisines et amis où les maîtresses de maison assurent elles-mêmes la démonstration. En échange, elle touche une commission sur les ventes, efficacité et convivialité. 80 ans plus tard, les Tupperware sont encore dans tous les placards.
Oui, c'est moins populaire que c'était, mais il y en a encore.
Oui, oui. Moi, j'en ai beaucoup, je crois.
Oui. Il reste 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez le temps pour votre cappuccino.
Le cappuccino, oui.
Prenez cappuccino.
Ce café gourmand surmonté de mousse fait partie des plaisirs de la gastronomie italienne. Ses origines remontent au 18e siècle. Servi très sucré, il fait fureur dans les cafés à Vienne. Appelé cappuccinaire, cette boisson doit son nom aux moines capucins et à la couleur brune de leur robe contrastant avec la blancheur des tonsures. Ce café au lait acquiert sa popularité en Italie bien plus tard, au début du 20e siècle, avec l'apparition des machines à expresso.
On ne boira jamais plus notre cappuccino de la même façon.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Du cappuccino, on passe à la bière avec Serge Bradet. La bière, une affaire de femme.
Oui, oui, oui. Un article de Ça m'intéresse histoire de janvier-février 2026. Donc, longtemps, un article de Valérie Koubiak. Longtemps, cette boisson fermentée fut produite et vendue par des brasseuses, avant que les hommes ne mettent la main sur ce marché devenu juteux. Au 21e siècle, les clichés ont la vie dure. La bière reste l'archétype de la boisson virile. C'est oublié que pendant des millénaires, ce breuvage a surtout été une histoire de femme. Environ 2100 ans avant notre ère, l'épopée de Gilgamesh, le plus ancien texte littéraire connu, évoque Enkidu, un homme sauvage initié à la civilisation par une prêtresse nommée Shamhat. Comment s'y prend-elle? Ben, elle lui fait manger du pain et boire 7 cruches de bière.
7 cruches?
Allons-y, et voilà. Plus loin, Gilgamesh entre dans une taverne tenue par Siduri, une femme. Alors voilà. 4 siècles plus tard, toujours en Mésopotamie, le code d'Amourabi, l'ancêtre des textes juridiques, confirme que tous les professions sont au masculin, sauf celle de brasseuse.
Ah oui?
Oui, toutes
les professions.
Tout est masculin, sauf brasseuse. C'est vraiment dans le texte d'Amourabi. Donc, c'est un fait. À l'aube des civilisations, les femmes boivent, servent et brassent la bière. Un rôle essentiel si on considère la place de cette boisson fermentée en Mésopotamie. Bu dans toutes les couches de la société, servant parfois même à rémunérer les travailleurs, elle est également sacrée et permet de communiquer avec les dieux, ou plutôt les déesses. Dans la mythologie sumérienne, les brasseuses sont les prêtresses Nikasi, celles qui remplissent la bouche. À la même époque, la bière coule aussi à flot en Égypte. Chaque année, on célèbre l'ivresse de la fête de Tek en souvenir du jour où l'humanité a été sauvée de la destruction par la bière.
Ah,
comment
oui,
c'est arrivé?
Mais oui.
Selon la légende, la fille de Ré, Sekhmet, déesse guerrière assoiffée de sang, est envoyée par son père pour tuer les mortels. Alors voilà.
Pas tuer les morts, les mortels.
Les mortels, oui. Mais elle se laisse tellement emporter par sa fureur qu'elle doit être arrêtée avant d'anéantir l'humanité entière, trompée par une bière teintée de rouge. Elle s'enivre. Elle s'enivre, s'adoucit et devient Hathor, la déesse de la joie et de l'amour.
À cause de la bière. Grâce à la bière.
Oui. Le breuvage lui-même est incarné par une divinité féminine, Menket, qui veille à ce que les défunts ne manquent jamais de mousse dans l'au-delà. Donc, c'est important. Grec et romain bâtissent...
Tu pensais à la chanson de Jim et Bertrand, de Jim Corcoran, y a-t-il de la bière au ciel?
Ah oui, ben oui. Il doit sûrement en avoir.
J'espère qu'il y a de la bière au ciel, c'est ce qu'il dit, je pense.
Grec et romain bâtissent une civilisation du vin, mais dans le nord de l'Europe, Germains, Celtes ou Vikings lèvent leur chope pour déguster le nectar fermenté, toujours préparé par les femmes. Si le christianisme relègue les déesses dans les limbes, certaines tenaces revêtent l'habit de sainte. Au 5e siècle, Brigitte de Kildare, patronne de l'Irlande et probable héritière de la déesse celte Brigide, est l'exemple d'un recyclage spirituel réussi. Bon, là, ce qui suit, là, vous allez avoir un petit... Elle produisait miraculeusement de la bière à partir de son eau de bain. De l'eau de son bain.
Pour avoir de la mousse?
Eh bien, Et un poème du début du Moyen-Âge la décrit en imaginant le paradis comme un grand festin avec Dieu, le Christ, les anges et les saints partageant un véritable lac de bière, raconte la médiéviste américaine Noël Phillips dans son livre « Craft Beer Culture and Modern Medievalism ». Au Moyen-Âge, la bière perd son aura sacrée, mais pas son importance. C'est la boisson du quotidien consommée par tous, hommes, femmes et enfants, parce qu'elle est bien moins dangereuse que l'eau. Souvent souillée et porteuse de maladies, la bière est nourrissante, facile à fabriquer et bon marché. La confection de ce pain liquide, plus faible en alcool qu'aujourd'hui, est au cœur de l'activité domestique. Les femmes brassent comme elles feraient des confitures ou de la soupe, rien de moins. Toutefois, sans houblon, la bière ne se conserve pas. Nombre d'entre elles écoulent leur surplus dans le voisinage. Cette activité permet aux épouses de contribuer aux revenus du ménage et aux veuves et célibataires de vivre dignement. C'est en Angleterre que le rôle des brasseuses est le mieux documenté. Figure familière des villages, les « all wives », les femmes « ale » désignant de la bière, donc les femmes de bière, s'affranchissent du cadre du foyer pour se hisser à l'échelle de la petite entreprise et écouler leur breuvage sur les marchés ou dans les tavernes. Un système si bien établi qu'au 13e siècle, la profession de brasseuse est officiellement reconnue et réglementée. Un conseil de régulation goûte les bières, juge de leur qualité, fixe les prix et tient des registres.
Au 13e siècle?
Au 13e siècle, oui. En explorant ces archives, l'historienne Judith Bennett, autrice de Ale, Beer and Brewster in England, a calculé qu'au début du 14e siècle, la ville d'Oxford comptait 115 brasseuses, également appelées cabaretières. Parmi elles évoluaient de véritables professionnels, à l'image d'une certaine Maud Elias, qui vendit 100 gallons de cervoise, environ 500 litres, à la maison du roi Édouard Ier en 1301.
Les hommes buvaient, mais il n'y avait pas de brasseur dans...
Non. Cette activité...
dans l'eau.
Non. Cette activité que l'historienne décrit comme peu rémunérée, peu reconnue socialement et donc peu appréciée des hommes, va changer du tout au cours du 15e siècle. La peste noire qui ravage l'Europe à partir de 1347 marque un premier tournant. Le prix des céréales s'effondre, la consommation de bière augmente. Puis, au début du 15e siècle, l'usage du houblon se généralise et remplace les herbes et les épices d'autrefois. Cette recette facilite la conservation de la bière et permet son transport sur de longues distances. Soudain, le marché devient juteux. Le brassage quitte alors le giron du foyer pour s'industrialiser. Le capital et la possibilité de signer des contrats commerciaux étant aux mains des hommes, les femmes sont reléguées aux marges.
C'est choquant, ça?
Oui, t'as l'air très. Judith Bennett cite notamment une ville de l'Essex où, en 1464, la totalité des brasseurs étaient des brasseuses. Et en 1500, une quarantaine d'années plus tard, il ne reste qu'une seule femme. C'est parti vite, hein?
Il y a vraiment un renversement de situation.
Ouais. Mm-hmm. Les femmes qui continuent leur production sont désormais une menace. Un mouvement de fond que l'historienne décrit comme un tournant misogyne touchant toute l'Europe. Les brasseuses sont frappées par des interdictions, emprisonnées pour avoir brassé à domicile.
Emprisonnées?
Oui. Ou fournies de la mauvaise bière et subissent des campagnes de dénigrement. Pamphlets et caricatures les dépeignent laides, sales, immorales, désobéissantes, en un mot, diaboliques. Dans le climat de rigorisme religieux qui caractérise le 16e siècle, dont les années 1500, et de chasse aux sorcières, les brasseuses cochent toutes les cases. Des femmes financièrement indépendantes, avec des connaissances en botanique, affairées autour d'un chaudron. Imaginez l'image qui nous vient en tête tout de suite, hein? Mieux vaut s'abstenir de brasser si l'on tient à sa réputation et à sa vie. Un siècle plus tard, les brasseuses ont disparu de l'espace public et cette chasse aux sorcières laisse un goût amer. 5 siècles après, la bière reste considérée comme une boisson d'homme. Et en 2025, parmi les 10 plus grandes brasseries mondiales, une seule est dirigée par une femme. Une seule seule. Et il y a quelque chose d'intéressant. Après avoir été interdite de brassage, les femmes n'en continuent pas moins à boire de la bière. À la fin du 19e siècle, des campagnes de santé publique la recommandent même aux mères. Nutritive, elle est aussi censée stimuler la lactation. Cette bière de nourrice est ainsi parfois servie dans les maternités et sous le régime de Vichy en France durant l'occupation à la Deuxième Guerre mondiale, les nourrices ont droit à une ration d'un litre par jour.
Oui, ça c'était au 19e siècle.
À la fin du 19e siècle, mais le régime de Vichy, c'est entre 40 et 45.
OK.
Oui, oui. Mais moi, quand j'étais allé en Angleterre en 90, évidemment, à ce moment-là, on voyageait avec un truc de voyage, comment ça s'appelait, le guide de voyage Michelin. Et c'était bien écrit que dans les hôpitaux en Angleterre, après une opération ou un accouchement, on donnait du start, la bière noire. Qu'on retrouve ici le Stout de Guinness, ou anciennement le Porter, qu'on avait ici, le Porter Champlain. Et d'ailleurs, Jeannette Bertrand raconte, quand elle a eu le problème des poumons,
la tuberculose.
Oui, la tuberculose, c'est ça.
Merci, Isabelle.
Et on lui faisait boire du Porter Champlain.
Pour oublier leur maladie.
Ah, oui.
Parce que c'est très vitaminé.
Pour être bon, ouais.
C'est très, très. Les bières noires, là, comme le Guinness de. Je fais la publicité parce que moi, j'aime beaucoup, là. Bière noire, c'est reconnu comme très vitaminé.
Oui.
Ouais, et c'est très stimulant.
Mais il ne faut pas exagérer sur le pain béni.
Non. Bon, voyons donc.
Voyons donc. Serge, bon, bien, je vous remercie beaucoup.
Oui.
Et je rappelle que vous avez trouvé cet article qui nous en prend plein de choses sur la bière. Mm-hmm. Ça m'intéresse. Histoire, numéro d'hiver 2026, c'est tout récent, par Valérie Koubiak. Merci à vous. Merci aussi à Isabelle Falardeau. Passez une belle semaine.
Oui, vous aussi.